Dans Info 30, aujourd'hui, on reparle d'habitat partagé, habitat coopératif, habitat participatif. La semaine dernière, on vous a proposé sur PFM un sujet sur un projet arrageois qui est en train de se monter les 4 saisons. Et aujourd'hui, on va du côté de la métropole lilloise. Notamment, on ira à Villeneuve-d'Ascq, à Anagram, à un habitat partagé qui a fêté ses 20 ans. Mais on commence par quelques petits rappels sur le principe de l'habitat partagé. On a rencontré à ce sujet Thomas Huguin, qui est architecte au sein d'une coopérative qui s'appelle Archiéthique.
Alors, il y a de très nombreux termes. Il fut une époque, le terme qui faisait consensus, c'était habitat groupé. On utilise aussi le terme d'autopromotion, dans le sens où c'est les futurs habitants qui sont promoteurs, qui financent et construisent eux-mêmes leur futur logement. On parle aussi d'habitat coopératif, qui peut être un abus de langage dans la mesure où la forme de coopérative de logement n'existe plus en France depuis plusieurs décennies. Et le terme qui fait maintenant consensus, c'est celui d'habitat participatif. On peut en discuter, ce qui est certain, c'est que tout au moins il permet de comprendre de quoi il s'agit. Grossièrement, c'est des logements et souvent un peu d'activité qui sont d'une part conçus par leurs futurs habitants, ensuite gérés par eux-mêmes, en général, que ce soit en termes de maintenance, d'entretien, mais surtout de vie collective au quotidien. Et ça se renforce, dans la plupart des cas, par un grand nombre d'espaces collectifs au sein de l'immeuble. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un immeuble traditionnel où chacun est chez soi et oublie qu'il habite avec d'autres personnes une fois qu'il a sa porte fermée, mais bien au contraire dans un mode de vie au sein de l'immeuble qui est particulièrement fondé sur le partage et la convivialité au quotidien. En général, sur les opérations, on a à minima une grande salle collective équipée d'une cuisine qui permet d'organiser les réunions collectives, à chacun de faire des fêtes. Très souvent, des chambres d'hôtes qui permettent de recevoir de la famille sans empiéter sur son logement et en accueillant correctement. Aussi souvent, des petits ateliers de réparation. Dans la plupart des cas, une buanderie collective qui permet de mutualiser les équipements qui sont coûteux et consommateurs d'espace ou d'énergie. Ce genre de projet. Et très souvent, que ce soit sur les projets existants depuis quelques décennies ou les nouveaux en cours de réalisation, ces projets sont montés par des gens qui sont très investis dans la vie locale, associative, militante, syndicale, politique ou tout autre. Et donc, c'est aussi généralement des lieux de vie associative ou militante locale, puisqu'il y a salle à disposition et beaucoup de moments de rencontre et beaucoup d'événements dans ces lieux-là. Historiquement, c'est en tout cas en France, puisque ça se développe beaucoup plus que ce soit en Allemagne, en Autriche ou en Suisse et même en Belgique. Mais historiquement en France, il y a peu de projets, beaucoup qui ont été réalisés dans les années 70, 80, 90, surtout soutenus par le mouvement pour l'habitat groupé autogéré à l'époque. Et depuis, disons, 2000, considérant les grosses problématiques de vie sociale en ville et de se loger en ville à des prix décents, la question de l'habitat participatif ou groupé est revenue sur la table et de nombreuses associations nationales ou locales se sont ressaisies de la question. Et donc on voit depuis quelques années des nouveaux projets émerger, sans considérer que l'habitat participatif, ce sera le renouvellement de la vie urbaine et retrouver la qualité et régler toutes les solutions qui permettent d'envisager à petite échelle une autre manière d'habiter ensemble, une autre manière de vivre au quotidien et retrouver d'autres formes du logement. Donc nous, l'agence Archiéthique, c'est des projets qui nous intéressent particulièrement. Parce qu'on est véritablement sur des projets où on repense le logement, où on repense le logement à l'échelle collective, puisque il faut quand même considérer que le dessin traditionnel du logement que tout le monde se représente, c'est-à-dire séjour, cuisine, salle de bain, chambre, c'est des typologies qui sont héritées de plusieurs siècles et qui sont surtout héritées de typologies de modèles aristocratiques ou bourgeois et qui ne sont pas du tout remis en question du point de vue de l'usage. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de cet espace-là, on n'a pas besoin nécessairement de cette division jour-nuit, comme ils le disent toujours les architectes, ou du chacun chez soi une fois la porte fermée. Donc ce qui nous intéresse, c'est repenser des espaces qui favorisent la vie sociale. Ça n'est ni un kibbutz, ni une communauté. C'est simplement un immeuble dans lequel on connaît très bien ses voisins et avec lesquels on est en capacité de prendre des décisions sans se taper dessus. C'est-à-dire que c'est autre chose qu'une copropriété. Pour travailler beaucoup avec des copropriétés, on sait que parfois ça peut être le royaume de la bassesse. Donc c'est un lieu de vie où chaque famille ou chaque personne habitante a son autonomie et son intimité, son indépendance, mais où il y a des temps d'entretien du jardin, des temps d'entretien des parties communes, des temps de décision, et puis des temps très conviviaux à l'anniversaire d'un tel, tout le monde est invité, à telle fête, tout le monde est invité. Voilà, ça n'a aucune prétention particulière, si ce n'est celle de mieux vivre ensemble au quotidien et de ne pas considérer que son voisin du dessus ou son voisin du dessous est une personne dont on n'a à peu près rien à faire. Il y a, selon les projets et selon les personnes, hein, tout un tas de solidarités au quotidien qui se mettent en place, que ce soit sur la garde des gamins, les coups durs de la vie. Ça n'est rien de plus, mais rien de moins que ça, ce qui est déjà énorme quand cela fonctionne.
Thomas Huguin, architecte au sein de la coopérative Archi-Éthique. On l'a rencontré dans un café lillois, c'était le 2 décembre dernier. Et justement, le lendemain, à Villeneuve-d'Ascq, avaient lieu des rencontres sur le thème de l'éco-habitat partagé. C'était organisé et accueilli en partie par des gens d'Anagramme, un habitat partagé depuis 20 ans à Villeneuve-d'Ascq.
Alors la charte du groupe reflète un petit peu finalement la philosophie de base de notre groupe. On vous en donne une lecture. Promouvoir une vie de groupe et un usage convivial des locaux communs. Créer un lieu d'échange, de communication et de partage d'expériences en respectant l'intimité de chacun.
S'interroger régulièrement sur les valeurs de solidarité. Développer la négociation dans les prises de décision. Privilégier les comportements de coopération sur ceux de compétition.
Nous voulions permettre à nos enfants d'avoir d'autres interlocuteurs adultes que leurs parents. On a d'ailleurs favorisé des réunions enfants où ils pouvaient exprimer leurs attentes en distinguant des réunions ados de ceux qui étaient plus jeunes. On a cherché tout au long de ces 20 ans à cultiver l'humour, sachant qu'on peut rire de tout, mais pas de n'importe quoi.
Marie-Cécile Delache et j'habite à Anagramme depuis 20 ans, un habitat groupé autogéré.
Alors on va parler avec vous, si vous voulez bien, de la vie sociale à Anagramme. Qu'est-ce qui caractérise cette vie sociale? Qu'est-ce qui fait la différence entre finalement une vie de quartier active qu'on peut avoir dans un village ou dans n'importe quel quartier de la ville et puis une vie dans un habitat partagé, groupé?
Alors la différence, il y en a, j'en vois au moins deux. Une primordiale, c'est qu'on a des locaux communs à gérer ensemble, c'est-à-dire qu'on a une chambre d'amis à gérer, une maison commune à gérer, le jardin est collectif, donc ça crée forcément des liens. Et deuxièmement, on s'est réunis aussi sur une charte, donc c'est qu'on a choisi d'habiter là parce qu'on avait un certain nombre de, entre guillemets, de valeurs. On voulait privilégier plutôt le partage et la solidarité sur l'individualisme et la compétition.
Par rapport au début d'Anagramme jusqu'à aujourd'hui, comment vous voyez un petit peu ce rapport que vous aviez au début à la vie sociale en commun et puis ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quoi.
Oui. Alors au début, on se connaissait beaucoup moins, donc on avait mis beaucoup plus de règles au niveau des réunions, de la parole, des choix, etc. Et on a sans doute au début... On s'est un peu frotté pour réussir à trouver comment vivre ensemble. Et je pense que plus les années avancent, plus c'est facile, puisqu'on se connaît mieux et on sait à peu près ce que chacun accepte de faire ou de ne pas faire.
Et est-ce que cette vie sociale et ces exigences sociales se sont pas délitées avec le temps? Comment vous voyez ça un petit peu
Non, c'est loin de se déliter. Je crois que c'est plus... Au contraire, ça s'approfondit avec le temps. On se connaît mieux, puis on a eu l'occasion d'éprouver la réelle solidarité des voisins.
Alors, donc il y a cet espace commun où il y a des fêtes oui. d'enfants, des repas, on peut aussi accueillir des gens. Qu'est-ce qui s'y passe d'autre à part ça?
Bah, c'est déjà pas mal. on a eu quelques projets plus longs, je ne sais pas si on recommencerait. On a accueilli une famille Bosniaque pendant 2 ans, on a accueilli des gens... qui étaient sans appartement pendant plusieurs mois. Alors c'est vrai que c'est à ces moments-là qu'on s'est rendu compte de l'importance pour nous de la maison commune, pour la vie commune. Donc ça nous arrive très fréquemment de louer, de la prêter pour 8 jours, même peut-être un mois, mais on va moins loin maintenant, moins longtemps, parce qu'on en a besoin pour nous, pour se réunir, se rencontrer, manger ensemble, voilà.
Ah, j'ai vu sur la porte, il y avait aussi un tableau qui signalait qu'il y avait c'était un lieu de collecte d'AMAP, enfin oui. de distribution d'une AMAP.
Parce que certains d'entre nous, on doit être 4 je crois, faisons partie d'une AMAP qui s'est lancée sur Villeneuve-d'Ascq, et donc on s'organise entre nous à l'intérieur d'Anagramme pour aller chercher les paniers des uns et des autres.
Justement, ouais, la question de l'ouverture au quartier, est-ce que cette salle, elle est ouverte aussi sur l'extérieur? Vous accueillez plutôt des réunions publiques, des choses comme ça ou...
Alors, pas vraiment des réunions publiques, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de groupes qui viennent faire leurs réunions chez nous. Vascama, par exemple, est déjà venu. Il y a le groupe qui veut créer un habitat groupé senior à Villeneuve-d'Ascq qui se réunit très régulièrement dans la maison commune. Donc, on a eu des réunions. Chacun fait partie d'associations et fait venir l'association dont il fait partie dans les locaux communs. On est de très loin, on n'est pas tous dans les mêmes réseaux.
Cet engagement au niveau de votre habitat, ça fait que vous passez quand même pas mal de temps sur cette organisation-là, j'imagine. Est-ce que c'est pas au détriment de votre participation à des associations plus globales, plus générales?
Oui. Non, on est très loin de passer beaucoup de temps déjà à l'organisation. Et puis ça nous a, au contraire, je pense que chacun apporte son réseau et fait connaître un peu d'autres choses. Et au contraire, ça nous a fait découvrir, je pense, d'autres façons. D'autres associations auxquelles on est allé. Tous les habitants d'Anagramme sont pratiquement tous intégrés dans d'autres associations.
Alors, dernière question. C'est quand même un projet un peu pionnier puis qui est dans la durée, quoi.
Oui.
Et du coup, tout le monde vient vous voir. Vous racontez l'histoire à tout le monde, comment ça se passe, le fonctionnement. J'imagine pas mal d'enthousiasme à partager ce projet, mais des fois, est-ce que c'est pas un peu pesant que tout le monde vienne scruter chez vous comment vous vivez ou ce rôle de modèle, quoi?
Bon, c'est vrai que ça, c'est quand même très récent, parce que pendant plein d'années, il n'y avait personne, puisque l'habitat groupé a été très florissant dans les années 70, 80, 90. Puis après, il y a vraiment eu une pause pendant presque 15 ans, je pense. Et c'est très récent, en fait, le nombre. Effectivement, on a beaucoup de groupes qui viennent. Mais ça correspond aussi au fait que certains d'entre nous sont en retraite ont un peu plus de temps, donc finalement, ça se goupille plutôt bien, quoi.
Les gens qui y viennent, il y a toujours cette motivation sociale, mais il y a aussi peut-être un côté d'échapper à la spéculation immobilière et puis au tarif élevé de l'immobilier.
Oui, et ce que moi je sens comme grande différence avec il y a 20 ans quand on a créé, c'est qu'il y a une motivation écologique beaucoup plus importante. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent construire un habitat très écologique. Il y a ça aussi qui fait que c'est un renouveau sans doute. Puis après, effectivement, il y a tout ce besoin de se retrouver, de convivialité, de groupe et d'habitat qui ne soit pas basé que sur l'intérêt financier.
Dernière question, c'est sur l'exigence sociale, parce que bon, il y a pas mal de projets où on sent que finalement c'est un peu réservé à une classe bourgeoise, bobo. Est-ce qu'à Anagramme il y avait cette exigence d'ouvrir à toutes les classes sociales, et est-ce que vous avez l'impression que c'est difficile à maintenir, ça, cette exigence sociale?
Alors, on peut dire qu'on a ouvert un peu, on ne peut pas dire qu'on a accueilli des gens très pauvres. Et on a fait des prêts entre nous, par exemple, hein, pour pouvoir aider ceux qui avaient moins de moyens que les autres. Après, c'est vrai que je pense quand même que la mixité sociale, c'est très difficile. Je me rends compte que tous les projets actuels qui se montent avec cette volonté, il y a quand même peu de structures HLM ou de collectivités qui poussent à ça, et c'est dommage. Et donc on a fait construire sur le terrain derrière tout cet ensemble. Donc il y a 10 logements dans le grand L que vous voyez, sur pratiquement, à part les deux maisons du bout, sur l'ensemble, c'est une imbrication de plusieurs types de logements. Il y a plusieurs logements qui ont rez-de-chaussée pour premier étage, et après au second étage, sur deux logements par exemple, il y a un appartement. Donc vous avez en fait des logements de taille très très différente, puisque ça va d'un petit logement de 55 mètres carrés jusqu'à des très grands logements de 180 mètres carrés. La moyenne et la plus grande partie des logements, c'est autour de 110-120 mètres carrés.
Lors de cette journée du 3 décembre, on a donc pu visiter les logements d'Anagram et aussi ceux d'Agrobi, autre logement en habitat partagé, donc vraiment situé sur le trottoir d'en face à Villeneuve-d'Ascq. On écoute quelques personnes qui étaient venues assister à cette présentation.
Alors en fait, je suis venue avec mon ami, on est plusieurs personnes, ça fait quelques mois qu'on a eu une proposition de la part d'un couple qui voulait commencer à monter un groupe pour faire de l'habitat partagé. Et étant donné qu'on pensait déjà depuis 2-3 ans à ça, au fait que bah, quand on voit la suite, est-ce qu'on veut un petit schéma traditionnel, acheter une maison avec son petit jardin, ça nous bottait pas quoi. On se rendait compte qu'on avait envie de vivre de façon un peu plus, si c'est pas communautaire, mais plus en lien avec les autres. Ça nous a intéressé, donc on commence à se réunir en fait avec ce couple, plus 2-3 personnes, on a un groupe de 6-7 là actuellement. Et voilà, on a fait 3 réunions où on commence à réfléchir à ce qu'on a envie, nos envies, voir où est-ce qu'on se... Il y a des points communs quoi, dans les envies. Et donc comme il y avait cet événement aujourd'hui, c'était concret, on est venu voir, écouter les expériences d'autres personnes qui sont en train de le réaliser ou qui l'ont réalisé.
Qu'est-ce que tu en aurais pensé de cet échange d'expérience
Bah en fait, du coup, c'est vrai que c'est concret. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est une présentation où ils sont en train de ils vont commencer à construire. Et là, j'ai vu qu'il y avait concrètement, par exemple, le fait d'une maison commune, j'avais pas pensé, avec un dortoir, possibilité d'héberger, des idées comme ça auxquelles j'avais pas pensé. Voilà.
Peut-être dans les questions que vous êtes posées au sein de votre groupe, quelles sont un peu les réticences principales?
En fait, on n'a pas beaucoup avancé encore dans la réflexion. Je dirais plutôt qu'il y a des points communs, donc ça commence pas mal. Des réticences, j'ai pas en tête là. Je vois plus, là actuellement, c'est plutôt ce qui nous relie que je peux dire, mais... par exemple, on souhaite essayer de produire un peu de bouffe, c'est un peu avec un potager, un truc collectif, économie d'énergie, il y a des choses, un poulailler, enfin, c'est un peu plus agricole que ce qu'on a vu aujourd'hui, quoi.
L'habitat groupé, on entend parler de plus en plus souvent, c'est des nouvelles façons d'habiter. Il y a le côté aussi économique qui revient, le côté écologique, la notion écologique qui me tient aussi beaucoup à cœur. Ben voilà, tout ça m'intéressait, j'essaie de creuser un petit peu le sujet pour pourquoi pas plus tard aussi m'investir dans ce type d'habitat. Mais c'est pour un projet à plus ou moins long terme, voilà, pour avoir des exemples, voir comment se sont montés un petit peu justement tous les différents groupes d'habitants là-dessus, quoi. Voilà.
J'ai grandi moi personnellement au Crieur, qui était un habitat groupé, autogéré, qui était au chemin des Crieurs, donc juste à côté d'ici. C'était du locatif, c'était un HLM où il y avait 11 familles qui payaient ensemble le loyer du 11e logement. Il y avait une salle avec des machines à laver, il y avait une salle commune, il y avait une salle de jeu, il y avait une salle télé, il y avait une chambre d'amis. Et je crois que voilà, ça a imprégné tous les jeunes qui ont grandi. C'est peut-être un peu ce qui a manqué aujourd'hui, c'est-à-dire le témoignage d'enfants, parce que c'est des expériences qui pour les enfants sont hyper enrichissante et marquante, et que je suis revenue sur la métropole lilloise il y a un an et demi, et qu'on continue de se voir parce qu'on a grandi ensemble et qu'on partage aussi, je pense, peut-être des rêves, des manières de voir la vie. Et puis la deuxième raison, c'est mon boulot actuel. Je bosse pour une coopérative de consultants. J'imagine que c'est pas étranger à là où j'ai grandi, mais où on accompagne des porteurs de projets collectifs d'habitat partagé. Et où du coup, voilà, ça m'intéresse dans le cadre de mon travail aussi.
Donc à titre individuel, tu serais intéressé toi pour participer à ce genre de choses, ou c'est fini, ou t'as envie de reproduire ce truc-là autrement?
Alors l'envie de le reproduire, elle est plus que là. Le moment, il n'y est pas forcément, dans le sens où voilà, moi personnellement aujourd'hui, la situation actuelle fait que j'ai pas une stabilité professionnelle et de vie qui me le permet. Mais parce que je pense qu'il y a un moment pour le faire, ça veut dire que c'est quand même un engagement de long terme qu'il faut être capable d'avoir, mais oui, enfin je veux dire, là je suis en coloc, et puis quand ce sera le moment pour moi, on va dire, de faire des projets de vie à plus long terme, je souhaite de trouver et d'avoir le groupe autour de moi qui aura envie de monter le même genre de projet. Ouais, carrément.
Peut-être une dernière question sur le moment où tu es sorti de cette de l'habitat partagé, parce que c'est un peu la même chose pour les gens qui ont eu des expériences alternatives en matière d'éducation, comme les méthodes freinées, etc. Quand tu sors de ce système-là et que tu te frottes à, entre guillemets, la vraie vie, c'est-à-dire la vie de la plupart des gens, le mode de vie de la plupart des gens, des fois ça peut être un choc. Est-ce que toi tu l'as vécu un peu comme ça ou pas tellement?
Moi oui, clairement, puisque j'ai fait des études en sciences politiques et sociologie, et qu'après je me suis pas retrouvée dans l'économie classique. Ça veut dire que j'étais beaucoup dans la coopération internationale, la solidarité internationale, etc. Les stages en diplomatie et en grosses ONG m'ont pas toujours convaincu. Ça me manquait, moi, de liens sociaux directs, et que les envies aujourd'hui, alors j'étais amenée à me rendre compte qu'il y avait énormément à faire dans ma propre région, et l'envie de faire du développement local et de bosser dans l'économie solidaire.
Quand tu t'es retrouvé peut-être tout seul dans un logement, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé.
Non, jamais. Non. Par exemple, j'ai jamais fait ce choix-là. J'en suis à ma 7e colocation. Et j'ai que 26 ans, donc ça tourne bien. et toujours pas prête et vraiment pas l'envie de m'installer seule. Ça, et je pense que c'est pas prêt d'arriver pour le coup. Malgré les contraintes que certaines personnes peuvent voir dans la colocation, oui, c'est clair que c'est des compromis au quotidien, mais ça m'apporte plus que ce que je n'ai, que ce que ça me coûte. Donc voilà.
Voilà pour ce sujet sur l'habitat partagé ou habitat participatif. Si ça vous intéresse, sachez que des projets sont en cours de montage sur la métropole lilloise, mais aussi sur Arras. Le projet s'appelle Les 4 saisons. Pour en savoir un peu plus, direction par exemple le site internet de PFM, www.radiopfm.com, un site qui vous renverra vers d'autres sites internet riches en informations.